habité. Le trottoir est de marbre de l'autre côté. Le jour où j'ai failli retourner dans la tombe, le temps était aux bombes et je les ai bravés. Les gens étaient en nombre à guetter ma rechute. Nous n'étions que des ombres devant le même but. Dans les ruelles sombres et dans les bars à putes, au milieu des décombres et des bêtes en rut. Le jour où j'ai failli m'imaginer poète, je n'étais moi aussi après tout qu'une bête. Mais j'ai tenté le jeu et me suis entêté pour en toute fin de compte ne plus rien regretter. Le jour où j'ai failli détourner mon regard, c'était presque trop tard et pourtant j'ai tenu. Je me suis accroché à cet instant ténu. Je n'ai pas regretté de m'être un jour battu. Le jour où j'ai pleuré, je n'ai pas oublié, je m'en suis souvenu. C'était si surprenant, c'était tant incongru. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, je ne saurais même pas dire d'où ça m'était venu.
Sébastien et Romain pour Imaginaire jusqu'à 22h. On aura du monde, on a des interviews à diffuser, on a les tardigrades qu'on va avoir au téléphone dans quelques minutes.
Un groupe, c'est qui c'est un groupe que j'ai découvert, Romain, pendant mes vacances montpelliéraines de novembre. Il se produisait donc à l'université Paul Va.
Pour toi, quand tu es en vacances, étudiants. Tu vas à l'université?
Il y avait des concerts étudiants, donc je me suis dit, je vais aller voir ça. Et puis, je trouve que c'est un groupe pépite de punk rock.
Oui, tout à fait.
Je trouvais ça plutôt bien de mettre en valeur le punk rock à l'antenne d'Imaginaire.
Très bien. Ensuite, tu nous parleras d'un livre-jeu, Sébastien?
Oui,
un livre dont vous êtes le héros, de nos années Gallimard.
Voilà, bien distrayant, La grande menace des robots en défi fantastique.
Et puis après, on diffusera l'interview d'Estelle Faye que nous avons enregistrée aux Utopiales. Il se passe des choses autour de nous, moi je sais pas.
Bah, c'est Noël.
Ouais, carrément.
C'est pas
Allez, du coup, on attend les tardigrades au téléphone, on s'écoute un extrait de leur album.
Voilà.
Sur Sion, exécution. carnage. Attaque de propagande, escalade permanente, démonstration de force, fausse paix sanglante. Ce soir tout est calme, soudain le ciel devient orage. Israël n'a plus empêché de prendre part au carnage. Comme si la pauvreté, c'était pas assez. Comme si la pauvreté, c'était pas assez. Et pendant ce temps-là, les extrémistes font la loi. Et pendant ce temps-là, les extrémistes font la loi. Vanda pour les dictateurs, ça suffit, ça suffit. Guerre profite industrie, ça suffit, ça suffit. Pour un monde sans violence, résistance. Un monde sans violence, résistance. Guerre en Orient, massacre en Orient.
Tardigrade.
Allô.
Allô, ouais. Eh allô, ouais. Les tardigrades.
Je pensais pas que je dirais ça un jour dans ma vie. Allô, allô, les tardigrades.
Les tardigrades, Romain, tu sais pas ce que c'est ?
Si, c'est une petite bestiole qui survit à tout, elle.
Ouais. Un fameux poil à gratter, ça tombe bien parce qu'on a Raoul, donc, du punk rock qui déménage, comme là on l'a entendu avec Massacre en Orient. Et Raoul, c'est le chanteur, guitariste et qui compose les textes et les musiques. Raoul, je suis exact jusque-là ?
C'est clair.
Bah, peux-tu nous présenter rapidement donc les tardigrades ?
Le groupe ou la bestiole ?
Le groupe.
On s'est formé en 2018 quand on est arrivé au lycée. Enfin, c'était une sorte de rêve, projet du collège. On l'a concrétisé au lycée. Mmh. Après, on a eu différents line-up, etc. On a commencé rapidement à composer. Et l'année dernière, en 2023, on est allé en studio pour enregistrer notre premier album. Et il est sorti fin octobre là de cette année. Et du coup, on vient des Cévennes, dans le sud de la France, dans le nord de l'Hérault, précisément Saint-Bosile-de-Putois. C'est un peu notre quartier général, c'est entre guillemets. C'est là où on répète, on organise plein d'événements avec notre association. Et c'est là où il y a toujours un des membres qui habite. Et voilà, on fait du punk rock. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Oui, tout à fait. Alors là, on vient d'entendre Massacre en Orient. Un des titres coup de poing qui reste en tête quelques temps après l'écoute, parce que les paroles choquent, comme martelées avec les assauts de guitare, font sens tout de suite. Alors la chanson, c'est un peu un manifeste pour moi. Elle résonne encore plus, Raoul, avec l'information toute chaude de la fin de la dictature syrienne de Bachar. Et j'ai vu le clip, et pourquoi avoir voulu en tirer un clip avec des images choc de chaînes d'information ?
En fait, quand on a commencé à faire la campagne de pré-album, avant que l'album sorte, on s'est dit il faudrait qu'on fasse un clip. Et on s'est dit quel clip on pourrait faire avec pas beaucoup de moyens, mais en même temps on arrive à apporter quelque chose visuellement, un message et à faire un choc comme tu dis. Et en fait, Massacre en Orient, du coup, ça convenait parfaitement parce que ça fait 60 ans qu'il y a des guerres, des terrorismes, de la dictature là-bas. Et du coup, il y a des reportages H24 qui sont là-bas, qui prennent des images, etc. Et des images choc. Et du coup, on les a mis dans le clip. On a aussi mixé avec des parties où on joue sur des fonds verts, etc. Et on les a mis dans le clip pour aussi un peu que les gens, ils n'oublient pas, en fait, c'est quoi, en fait, l'ampleur. L'ampleur de ce qui se passe là-bas, l'horreur, etc. Et du coup, la chanson, elle se veut vraiment vraiment rentrer dedans, etc.
Et là, il y a quand même un peu d'optimisme. Est-ce que tu réagissais, je pense, sur le fait qu'il y a eu la chute de Bachar el-Assad ? Est-ce que c'est pas un peu d'optimisme quand même ?
Alors ouais, on a discuté hier entre nous. C'est évidemment, c'est une grande nouvelle parce que ça fait 25 ans que le mec... il tient la Syrie d'une main de fer et il est en partie responsable de la guerre civile qui a fait 500 000 morts. Mais d'ailleurs, j'ai vu des images, ça, c'est assez impressionnant, les milliers de gens qui étaient détenus dans les centres de torture, dans les prisons, etc., et qui ont été libérés. Du coup, ça en soi, c'est forcément on est très heureux, nous, en tant qu'Européens à distance, d'apprendre ça. Après, on est aussi un peu sceptique sur qu'est-ce que va être la suite. Est-ce que la guerre civile en Syrie va définitivement s'arrêter? Est-ce que le HTC là qui a pris le pouvoir, il va pas imposer aussi un truc pas terrible envers la population? Qu'est-ce qui va se passer aussi sur la question des Kurdes? Parce que c'est un peu compliqué à expliquer, mais grosso modo, il y a une forte minorité kurde qui est au nord de la Syrie, qui a créé une zone autonome qui s'appelle le Rojava. Ils s'entendent pas très bien avec le nouveau régime syrien qui est en place. Du coup, est-ce que le nouveau régime syrien, il va faire des trucs avec la Turquie ils vont s'entendre pour écraser le mouvement turc, etc. Du coup, c'est un peu compliqué. On voit ce que la suite nous réserve.
Donc là, voyez les amis auditeurs donc du 101.5. Que vraiment les tardigrades ont à cœur de faire des chansons à texte engagées, mais vraiment en ayant creusé vraiment les sujets. Et là, on va changer d'horizon, Raoul, après ceux des dictatures orientales, pour revenir à d'autres dictatures épinglées dans la chanson, une que j'apprécie particulièrement, Covid-19, entre parenthèses, 84. Alors ce titre, pour moi, Romain, joue intelligemment avec l'année 1984. On est quand même imaginaire, on parle pas mal de livres. Et c'est le titre 1984, éponyme du roman dystopique d'Orwell. Et également, on a le rappel dans le titre Covid-19, entre parenthèses 84, le rappel des dures années de Covid-19 qui sont pas si loin derrière nous. Et pour reprendre, Raoul, des paroles du refrain, dans le cas où du corona s'affirment les dictatures, comment justement les dénoncez-vous, vous les tardigrades, dans les textes de votre album ?
Et à travers cette chanson ou à travers toutes ces chansons?
À travers cette chanson et d'autres chansons où j'ai retenu qu'il y a quand même le mot dictateur, dictature qui reviennent, un peu comme un massacre en Orient.
Et dans cette chanson précisément, en fait, pendant toute la période du coronavirus, on a vu les dingueries que les gouvernements, les élites ont commencé à mettre en place. D'un point de vue des lois liberticides, d'un point de vue des contrôles, le pass sanitaire. De toutes les magouilles qu'ils ont fait avec les lobbies pharmaceutiques, des moyens qu'ils ont fait médiatiquement pour diviser la population, et on s'est dit à chaque fois, on se disait mais putain, mais c'est une sorte de dystopie qui est un peu en train de se produire. Enfin, ils profitent de cette pandémie pour faire plein de trucs, et du coup on dit tout ça un peu dans la chanson avec des métaphores, et justement des métaphores qui sont empruntées au roman de George Orwell 1984. Et du coup là, c'est là qu'on s'est dit ouais, on va faire le jeu de mots, parce que c'était le jeu de mots un peu facile, mais en fait on s'est dit c'est tellement ça la réalité, on va un petit peu vers ça, et on s'est dit et dans les autres chansons de l'album, du coup on parle aussi de la société qui va droit dans le mur, de la nécessité de se révolter, de ressortir et de faire union populaire pour se révolter, etc., et dégager le gouvernement. Et on parle bien sûr des différents trucs qui font qu'on est un peu, on est plus ou moins dans une sorte de dictature douce, que ce soit les violences policières. On a une chanson qui s'appelle les Stormtrooper Attack, oui. Où du coup, grosso modo, on fait des métaphores entre les CRS et qui seraient des Stormtroopers qui défendraient l'empire capitaliste, l'empire macroniste. On a aussi une chanson qui s'appelle Société Speed est foutue, qui parle un peu du système, etc., de comment il nous rentre en fait dans une société où tout va trop vite, où tout le monde est stressé, tout le monde doit être rentable, doit être productif, doit consommer rapidement, etc. Et du coup, ça aussi, c'est une sorte de manière de consolider leur dictature, etc. On parle aussi de l'individualisme dans cette chanson Société Speed est foutue. Et après il y a des chansons qui sont pas immédiatement référence à cet autoritarisme des États qu'on dénonce, mais il y a des chansons plus écologiques ou sur la question de l'extrême droite ou de la tragédie des migrants, etc.
Alors justement, là, les Stormtrooper Attack, Romain, ça, c'est en référence à Star Wars.
Ah oui, ça,
en plus, Pierre-Marie, un petit coucou à Pierre-Marie, justement, président d'Imaginaire. Donc là, tu nous parlais, Raoul, de Société Speed et Foutu. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que la Société Speed et Foutu ouvre l'album. Et pour finir l'album, on a Rébellion. Et pour moi, en quelque sorte, ces deux titres qui sont un peu miroirs. Est-ce que je vise juste?
C'est à peu près ça, en fait. On a, en fait, l'album, il y a une sorte de... C'est pas exactement bien délimité, mais il y a, au début, on part du constat. Société Speed et Foutu, c'est plus un constat. Et on dénonce au fur et à mesure de l'album tout ce qui va pas dans la société. Enfin, après, on peut pas tout, en 12 chansons, on peut pas tout dénoncer, mais du coup, la société Speed est foutue, les mensonges, l'hypocrisie des gouvernements, les pesticides, les politiques très très dures envers les migrants et les réfugiés, etc. Le Covid-1984. Et en fait, Rébellion, à la fin, c'est une sorte un peu de bilan. Du coup, on nous dit, on va droit dans le mur, la société, elle part clairement en couille. Et tout semble aller pour le mieux, mais on nous masque les yeux, c'est ça qu'on dit dans la chanson. Et du coup, le bilan de l'album, c'est la rébellion. Et c'est pour ça qu'aussi, sur le CD, on a fait plein de dessins qui sont un petit peu un clin d'œil à cette chanson Rébellion, où on voit un peu le peuple qui se soulève et qui est sur le point de renverser le gouvernement.
Qu'est-ce qui vous a motivé à glisser des extraits vocaux donc du président de la République française Macron dans la chanson Rébellion?
Dans la chanson Rébellion. Alors c'est parce que justement ça fait un petit peu directement référence au CD en fait. On t'enverra un CD, un C4, mais en fait il y a la pochette avant avec Micheline qui étrangle le capitalisme, qui fait un doigt d'honneur, et il y a la manif derrière. Et en fait, du coup, à l'arrière du CD, il y a une énorme manif. On voit tout le peuple uni dans sa diversité. Enfin, il y a tous les corps de métier qui sont à la manif. Enfin, tout le monde en a ras-le-bol de la société. Et on voit Macron qui est un peu au balcon de l'immeuble, la porte est en train d'être enfoncée au rez-de-chaussée. Et lui, il est au balcon. Il commence à flipper. Et du coup, ça fait un petit peu directement référence à la chanson Rébellion. Et à la fin, on a mis Macron on laissera les auditeurs écouter ce que dit Macron à la fin de Rébellion. C'est un peu la surprise, mais Macron, il se montre encore jusqu'au bout, imbue lui-même, etc., sûr de lui, et que le peuple, c'est des fainéants, c'est des extrêmes, il ne cédera pas, etc. Enfin, il reste droit dans ses bottes. C'est pour ça qu'on parle de dictature. Et du coup, à la toute fin de l'album, on a mis une sorte d'effet vocal où il y a quelqu'un qui vient et qui dit « Seigneur Macron, la porte va bientôt céder ». Et du coup, ça fait référence au bélier, etc. Voilà.
Et d'ailleurs, l'album s'intitule « Micheline fait de la politique ». Et toi, Raoul, le courant musical du punk rock, qu'a-t-il de plus par rapport aux autres courants musicaux pour faire passer des messages, ici presque des avertissements?
Je sais pas, de plus, c'est un peu en mode, je sais pas forcément ce qu'il a de plus, mais en tout cas, pour connaître pas mal la scène française et étrangère, le punk rock, ça a toujours été, dans quasiment tous les groupes, un mouvement de contestation, et face aux dérives de la société, sur plein de thématiques différentes, et un mouvement de, inviter les gens à faire réfléchir sur ce qui se passe. Et puis au-delà de ça, le punk rock, c'est un mouvement anticonformiste. Nous, en fait, on a fait du punk rock parce que c'était vraiment ça qui nous animait, etc. On a beaucoup, les grandes influences du groupe, c'est des groupes de punk rock français. Mais on aurait pu très bien tomber dans autre chose et faire du jazz ou du rap très engagé, parce que il y a quand même aussi dans d'autres styles des artistes très engagés. Mais nous, du coup, on est resté sur le créneau du punk rock parce que du coup, ça a lié à la fois le message très très contestataire, très révolutionnaire, et en même temps l'énergie d'un concert. En fait, chaque concert, on veut un peu que ça se passe un peu. C'est une sorte d'émeute musicale, on appelle ça un concert, nous, quand un peu les pogo, etc.
J'ai vu ça.
T'as pu le voir à Paul Valéry.
Et d'ailleurs, pour conclure, avant de passer à un deuxième titre, je vais en revenir donc toujours au courant punk, à Antifascista, vraiment qui résonne tel un hymne et qui reprend, modifie donc dans le texte des formules de chansons du groupe connu Berrurier Noir. On t'a dû en passer, Romain, donc sur l'antenne. On a la jeunesse emmerde le Front National et là c'est transformé en la jeunesse emmerde le Rassemblement National. On a également Porcherie qui est cité. Donc c'est un titre du répertoire des Berrus, si je ne me trompe pas.
Ah oui.
Et en quoi l'affiliation Raoul avec les Berrus compte-t-elle autant pour toi, d'autant plus qu'on a surprise Laurane, un ex-Berru, qui est donc fait partie maintenant de la formation punk des Ramoneurs de Menhir, qui est en feat sur Antifascista. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette collaboration joyeuse avec Laurane des Berrus?
En fait, c'est un peu une longue histoire. Et en fait, c'est un peu aussi les origines de tout. C'est qu'en fait, moi, les Ramoneurs de Menhir, c'est un groupe qui m'a vraiment beaucoup changé ma vie. Je les ai vus quand j'avais 12 ans, et il y a vraiment eu un après. Ils m'ont vraiment révélé et plongé dans le mouvement punk, enfin, de manière irrémédiable, j'ai envie de dire. Et du coup, ils m'ont donné la rage, envie de militer, etc. Le fait qu'en fait, c'était possible de construire des alternatives et de foutre en l'air les normes de la société, etc. Et du coup, on est très fans des Ramoneurs de Menhir, on les a vus plein de fois en concert, etc. Et quand on a fait l'album, on s'est dit ça serait cool si on invitait des artistes à collaborer, etc. Et du coup, on n'a pas forcément que des grands stars. On a aussi par exemple une copine qui s'appelle Soleil qui a fait un feat sur la chanson Empoisonnement. Mais les Ramoneurs de Menhir, on souhaitait vraiment, que Laurane il soit en featuring, parce que pour nous les Berrurier Noir, etc., la jeunesse en main, le Front National, c'est vraiment un groupe qui caractérise toujours la lutte contre l'extrême droite, la lutte pour la diversité, pour la tolérance, etc., contre les haines, etc. Et du coup, on lui a proposé et il a accepté, et nous on était vraiment, vraiment très 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 heureux. Et du coup, ça s'est fait comme ça.
Ok, écoute, il va se finir donc déjà notre interview, mais déjà que je trouve qu'elle est passionnante, parce que j'ai voulu faire un petit tour d'horizon donc de l'album, mais sans tout dire de tous les titres, et on voit vraiment que c'est avec Raoul donc des Tardigrades qu'on a vraiment vraiment une matière vraiment vraiment très intéressante à écouter, avec des titres qui se relient entre eux et tout. Et on sent que vraiment vous avez plein de choses à dire, et j'espère que vous aurez tel mon poisson rouge et noir qui part en guerre, d'autres combats donc sur lesquels vous voulez vous épancher sur d'autres galettes.
Et il y a plein de sujets qui seront traités dans le prochain album. On va notamment faire plus de sujets sur les questions de violence sexiste et sexuelle, et sur l'écologie qui sont un peu une des facettes manquantes. On les dénonce un peu dans le premier album, mais on va sur le prochain album, on va essayer d'un peu plus priser là-dessus. Après, il y aura sûrement peut-être d'autres thématiques. On verra. On est en pleine composition du prochain album déjà.
D'accord, c'est cool. Il n'y a plus qu'à passer à Angers, n'est-ce pas, Romain? Parce qu'on a des scènes quand même qui aiment bien le punk sur Angers. Café. Et je te laisse.
On est très friands. Si l'occasion se présente, on sera très très heureux de monter. Là, on est en train de préparer une petite tournée pour l'année prochaine et des dates un peu dans toute la France, parce que on a surtout joué dans le Gard et l'Hérault jusqu'à maintenant, dans nos départements de le terre-terre, quoi, comme on peut dire. Et du coup, on a envie un peu de bouger. Ouais.
Je te laisse, Raoul, présenter donc le second titre qu'on va passer, Antifascista. Donc pour le mot de la fin, c'est à toi.
Antifascista, c'est un appel à l'unité contre l'extrême droite, etc., pour la diversité, pour la préservation d'une société d'une société colorée, mélangée. Et du coup, ça dénonce la montée de l'antifascisme, mais ils ne passeront pas. Ils ne passeront pas.
Et on va vous le passer sur Radio G.
Salut Raoul.
Salut, à bientôt. Salut.
À bientôt. Alerta, alerta, antifascista. Alerta, alerta, antifascista. Alerta, alerta, antifascista. Alerta, alerta, antifascista.
L'extrême droite ne cesse de cracher son venin. Le serpent avance masqué, attendant pour frapper. Il se nourrit du vice humain et de la peur pour nous diviser et régner en seigneur. Ne les crois pas quand ils promettent un monde meilleur. Ils te parlent de démocratie, mais ne veulent que la dictature à vie. Ils seraient prêts à rétablir la colonisation arborer la croix gammée sans hésitation. Le fascisme c'est la gangrène, on l'élimine ou on en crève. Pas de facho dans nos quartiers, pas de quartier pour les fachos. Oh, contre eux toujours le combat. Oh, anti-fascista. Oh, ils ne passeront pas. Oh, anti-fascista. Totalitaire de cette bande de rats protégée par l'État. Le monde part en couille, un bon recours cette fois-ci. C'est le moment opportun pour ces grosses saloperies. Ils veulent nous faire taire, transformer notre monde en prison. Ne les laissons pas faire, levons-nous pour de bon. Soutiens-toi de Jean-Marie, soutiens-toi de Vichy. On n'oublie pas, on pardonne pas, ne fascisme pas sympa. Oh, 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 contre eux toujours le combat. Oh, 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 anti-fascista.
T'es parti pour une chronique flash. Hein.
La chronique flash sur la grande menace
avant
des
qu'on
robots.
Écoute l'interview d'Estelle Faye.
Voilà, c'est un défi fantastique qu'on doit à Steve Jackson, mais le Steve Jackson
américain.
Pour moi, c'est un livre dont vous êtes le héros distrayant, qu'on a en occasion sur Rakuten, par exemple, à 20 euros.
Ah oui, quand même.
Et moi, je vous le conseille.
Tu allais nous dire à 2 euros.
Moi, je l'ai eu à pas cher. Hein.
Okay.
Et en fait, ce qui est vraiment très drôle, c'est qu'on peut jouer. Donc, on joue à un personnage qui doit réveiller toute la population qui est endormie de son pays, la Toronie. Et en fait, qui s'est endormie à cause d'un virus qui permet aux Calazariens, un peuple ennemi, d'envahir donc justement le pays de la Toronie. Et moi, ce qui m'a amusé, c'est que j'ai échoué en fait, hein, parce que je devais avoir un antidote pour réveiller mes compatriotes. Sauf que, imaginons Romain que je zigouille un dinosaure, parce que j'ai à me déplacer librement dans tout le territoire, et que sans le vouloir, bah le sang de ce dinosaure, je peux pas le récupérer pour m'en servir dans l'antidote. Mais figure-toi, bon là, j'ai pas spoilé, j'ai pas dit la vérité, c'est que malgré que je n'ai pas eu cet antidote, eh bien, je peux continuer à aller dans d'autres villes parce qu'on est libre d'aller dans différentes villes. Donc, il faut bien faire attention. Il y a aussi la chance qui rentre en ligne de jeu pour pouvoir aller dans telle ville avant telle autre pour confectionner l'antidote. J'ai échoué, pas grave. Eh ben, tant pis. Je vais essayer d'avoir un robot puissamment armé parce qu'on a aussi la capacité d'avoir différents robots dans lesquels, en fait, on rentre. Un peu comme dans Pacific
Rim. C'est du Mika, ouais.
Voilà, voilà, comme dans Pacific Rim. Et le but, c'est d'avoir le robot le plus fort possible en ayant des armes comme des missiles qu'on récupère à droite à gauche pour après, pourquoi pas, aller casser la tête donc du tyran des Calazariens qui est à Tauron, qui occupe donc Tauron, la capitale de la Tauronie.
Qui est un genre de dinosaure, alors.
Et aussi, on rencontre des dinosaures parce qu'en Tauronie, en fait, on a des robots, les super cowboys ou les cowboys. Et là, au début, on est dans un ranch et on est habitué aussi à, avec d'autres robots, dans le robot, à essayer de calmer les dinosaures. Mmh. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, avec ce livre dont vous êtes le héros, vous n'échouerez pas. Vous avez quand même 3 tentatives pour réussir donc votre mission qui est de bouter hors de la Tauronie les Calazariens. Okay. Et c'est vraiment très drôle avec des combats spéciaux quand vous êtes dans des robots contre d'autres robots, des dinosaures. Et qui permettent d'avoir des combats un peu type jeu de rôle avec des capacités particulières selon le robot qu'on a.
J'étais en train de me dire, c'est un petit peu comme Robotech. Je sais pas si c'est antérieur à Robotech.
C'est un peu dans la. 1986, ça a été écrit dans la période des Transformers.
Oui. Ça se voit un peu d'ailleurs sur la couverture.
Il y a quand même une inspiration directe.
Ok.
Donc très 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 drôle, tout comme le titre Triceratops.
Allez, on enchaîne.
Que j'ai trouvé aussi très drôle à vous faire passer.
Par Matmata. Dans l'imaginaire. Triceratops.
Si jeune et si beau, si pâle et squelettique, ta peau sur mes os, la fin du Jurassique. On a crevé la dalle avant de s'envelopper de chaleur animale. Allô, allô, du Crétacé. On est tous ici congénères. Est-ce qu'on passera l'hiver? On est tous ici congénères. Faudrait peut-être changer d'air. Will you help me climb that hill when I get bigger than the Triceratops? Will you love me? Will you still when I'm bigger, bigger, bigger than the Triceratops? Will you tell me what you feel if I get bigger than the Triceratops? Now your love is made of steel, but I'm getting bigger, bigger than the Triceratops. Foutaise, on savait que nos heures faméliques se comptaient sur les doigts de nos mains impudiques. On n'a rien fait de mal, on s'est juste enveloppé de charme pondéral à nos saveurs enlacées. On est tous ici congénères à cette stop-pour de guerre. On est tous ici congénères sur qu'on passera l'hiver. Will you help me climb that hill when I get bigger than a Triceratops? Will you love me? Will you still when I'm bigger, bigger, bigger than a Triceratops? Will you tell me what you feel if I get bigger than a Triceratops? Now your love is made of steel, but I'm getting bigger, bigger than a Triceratops. Des paupières, mes fossiles, l'avenir si docile, mais il me pétrifie, regarde-nous. On est tous ici congénères, et quand viendra l'hiver? On est tous ici congénères, faudra peut-être changer d'air. Will you help me climb that hill when I get bigger than a Triceratops? Will you love me? Will you still when I'm bigger, bigger, bigger than a Triceratops? Will you tell me what you feel if I get bigger than a Triceratops? Now your love is made of steel, but I'm getting bigger, bigger than a Triceratops.
et présente le premier jour avec une unité qu'on attend quasiment depuis le premier jour, puisque l'interview a été déclassée. Estelle Fay, autrice d'une vingtaine de romans, jeunesse et adulte, novelliste, 21. C'est bien, tu respectes une source de parité. 21 sur ta page Wikipédia. Tu es peut-être pas d'accord avec ça.
Non, parce qu'il y en a un peu plus. Wikipédia liste pas tout. Je suis plus proche de la quarantaine.
Ah, donc deux fois plus de nouvelles que de romans. Anthologiste, deux anthologies à ton actif, et surtout 9 prix littéraires répartis sur les nouvelles et les romans.
Un peu plus si on compte les prix jeunesse aussi, je dois être plus proche de la vingtaine.
Parfait. Et tu es aussi scénariste cinématographique, puisque tu partages ça avec Fabien...
Fabien Légeron, aussi mon co-auteur, voilà, donc avec qui on a fait plein d'aventures. Après, ce qu'il y a aussi, c'est qu'entre la jeunesse, l'imaginaire, il y a des petits prix de lecteur, il y a des nouvelles dans des petites publications, mais que j'aime beaucoup parce que c'est... Bah, à la fois, ça me permet de tester des univers, et je trouve que c'est bien aussi de soutenir des petites assos, de soutenir des jeunes qui se lancent en faisant une anto, donc c'est vrai que parfois, je publie dans des tout petit truc. Et je trouve que c'est cool, mais je comprends aussi que les recensions, ça soit compliqué, quoi. Donc c'est pas du tout un reproche fait à la page Wikipédia, c'est juste que par moment, quand c'est vraiment une nouvelle dans une micro-anto pour un micro-événement, c'est plus dur de toutes les avoir.
Tes deux derniers romans sont pour la jeunesse. Roman, tu as une série qui est sortie qui s'appelle Les Magies de l'Archipel, dont le dernier tome est sorti en 2024. Ça fait une grosse fracture avec ce qui s'est passé avant, où tu étais notamment connu pour de l'horreur, pour de l'aventure maritime. Pourquoi être tourné vers la jeunesse ces derniers temps?
Je suis pas du tout tourné vers la jeunesse, en fait. C'est que les calendriers éditoriaux n'ont pas grand-chose à voir avec les calendriers d'écriture. Et que simplement, écrire des romans adultes, notamment avec beaucoup de docs historiques comme je le fais, et surtout quand c'est un gros roman qui se présente, ça prend du temps. Donc c'est le temps pour écrire les romans, pour bien placer les romans. Et il se trouve que là, les romans qui se sont placés, qui sont écrits ces derniers temps, étaient plus du côté ado-jeunesse. Mais ça veut pas du tout dire que par exemple, l'année prochaine, si tout va bien, j'ai une grosse sortie adulte au printemps. L'année prochaine, donc, j'écris un prochain gros space opéra adulte. Dans la même veine un peu que Les Nuages de Magellan, mais c'est pas une suite en fait, c'est juste un peu dans le même univers, mais avec encore plus d'ampleur, avec des enjeux encore plus forts, enfin. Donc en fait, c'est juste que je suis en train de travailler à fond sur des trucs adultes. Mine de rien, on a co-dirigé une anto d'horreur aussi avec Florian Soulas, très adulte, mais pareil, ça prend du temps. Donc c'est juste par moment, les calendriers de l'édition font que les projets jeunesse s'intercalent entre les projets adultes. Et quelque chose aussi sur quelque chose contre lequel je veux vraiment lutter, c'est cette idée qui court un peu trop dans certaines branches de l'édition, comme quoi faudrait publier un roman par an pour pas être oublié entre guillemets. Je pense pas que les lecteurs oublient aussi vite. Je pense que les lecteurs valent beaucoup mieux que ça, que les romans méritent de vivre plus que 6 mois aussi. Donc oui, quand par moment, pour écrire un roman adulte, pour bien l'écrire, il faut plus d'un an parce que la vie. Je le prends en fait. Je vais pas m'infliger un rythme de publication de romans adultes super, ou de romans en général, quoi. Je veux dire, trop intensif simplement pour répondre à des normes fantasmées. Et en plus, quand même, de nos jours, un des vrais problèmes qu'on a, c'est la surproduction en littérature. Et j'ai la chance de gagner assez bien ma vie avec mes livres, d'avoir des lecteurs aussi qui me suivent, y compris si, encore une fois, je sors pas un roman adulte tous les ans. Donc autant en profiter pour essayer de faire un peu partie de la solution et pas du problème, c'est-à-dire de prendre le temps dont j'ai besoin pour écrire mes livres. Et oui, ça veut dire que non, je vais pas publier un roman adulte tous les ans et je vis très bien avec ça.
Ta réponse est géniale parce qu'elle me donne plein de questions à te poser, mais que je vais repousser un petit peu parce qu'il y a quand même une question qui m'intéresse. C'est, tu l'as rapidement évoqué, un de tes derniers romans en date, Albin Michel et Imaginaire, Widjigo. Tu as aussi sorti une nouvelle éco-dirigée, l'anthologie Nous qui parlons depuis les ténèbres, de l'horreur. Tu as un attrait fort pour l'horreur et tu ne t'en caches pas, ça s'est vu aux utopies. Est-ce qu'il est possible de faire de l'horreur pour la jeunesse?
Oui, totalement. Aussi, c'est juste qu'on va pas jouer évidemment sur les mêmes choses, qu'on va pas être aussi graphique par exemple, que par contre l'horreur sur la jeunesse va beaucoup plus jouer sur affronter ses peurs, apprendre en fait aux jeunes à affronter leurs peurs, ou pas tant apprendre mais comment dire, les aider à affronter leurs peurs, donc les aider à vivre avec ça aussi, à surmonter les peurs, Là où dans l'horreur adulte, on va pouvoir par exemple beaucoup plus aller vers du malaise, on va pouvoir aller vers des choses plus, voilà, parfois un peu plus âpres, donc un peu plus graphiques aussi. Donc c'est juste pas la même chose, mais finalement le principe de base est quand même le même, c'est-à-dire se confronter à ce qu'il y a de sombre dans le monde et ou dans l'être humain. Juste pas de la même manière, bien sûr. Et mon prochain roman, Young Adult, c'est pas de l'horreur, mais il y a une grosse partie angoisse, en tout cas. Mais justement, c'est de l'angoisse, même si c'est du YA, donc du young adulte, donc il y a des lecteurs adultes, c'est pas traité comme les parties horreurs qu'il va y avoir dans mon prochain roman adulte, par contre. Voilà, parce qu'on les traite pas de la même manière.
Finalement, quand un lecteur va vers l'horreur, un lecteur adulte, ou en tout cas vieux et adolescent va vers l'horreur, il y a cette recherche d'adrénaline, de suspense, de terreur. Comment faire pour donner envie à ce qu'un jeune reste accroché à une histoire qui fondamentalement le met mal à l'aise?
En fait, justement, l'idée, c'est de pas de le mettre mal à l'aise. C'est de le confronter à ses peurs. Et d'ailleurs, alors, déjà, les mômes, ils adorent avoir peur en général. Enfin, un môme, on le met à Halloween, on le met dans un train fantôme, on le déguise en sorcier, en sorcière, en monstre. Alors, en général, quand même, il y a beaucoup de mômes qui adorent, quoi. Je veux dire, voilà, je vois les minimums de mon entourage à Halloween, ils sont contents. Mais par exemple, j'ai un roman petite jeunesse à partir de 8-9 ans qui est L'île au manoir et qui joue sur beaucoup de ressorts d'horreur et qui a une histoire assez dure quand même d'un père qui emprisonne sa fille dans un manoir qui est régulièrement donc submergé par les eaux. Sauf que sa fille, elle a un côté sirène, donc elle survit quand même, mais il l'empêche de grandir. Donc c'est une histoire qui a un côté très dur. Et pour le coup, il y a beaucoup de lecteurs qui ont accroché à ça. Et il y a une lectrice qui l'a pris, qui l'a amené au petit champion de la lecture jusque dans la Comédie française. Et elle a lu cette scène-là. Mais parce qu'elle aussi, mine de rien, elle a, dans sa famille, une relation très compliquée avec son père. Et son père n'était pas venu, d'ailleurs, à la Comédie française, alors que juste, il y a la gamine qui lit sur la scène de la Comédie française, qui fait partie des finalistes d'un concours national qui, brasse des mômes sur toute la France. Donc c'est quand même un très grand moment pour sa fille. Et lui, il n'est pas là. Et mine de rien, elle, de lire cette scène qui montre une relation quand même problématique entre une fille et son père, sous l'angle du conte de fées noires, sous l'angle du fantastique sombre, sous l'angle de l'horreur pour môme, eh ben ça lui a fait du bien, parce que ça lui a permis de se reconnaître dedans et en même temps de prendre du recul aussi par rapport aux problèmes de sa propre vie. Et c'est ça aussi quand on fait de l'horreur pour les enfants. Il y a plein de choses qui leur font peur dans le monde, les enfants. Il y en a beaucoup, ils vivent pas dans des bulles, en fait. Donc, mine de rien, je pense aussi à ma plus jeune cousine. Elle a 20 ans de moins que moi, et elle, en fait, elle était très proche d'une de mes grand-mères. Et elle était très jeune, elle était même pas ado quand ma grand-mère est morte après avoir été longuement malade. Et elle était là, elle était quand même avec ma grand-mère, elle voulait être près d'elle et tout, parce qu'elle a un super bon cœur. Mais c'est vrai que là, elle s'est mise à lire, elle était du manga, et notamment à lire des mangas très sombres, qui parlaient de maladie, qui parlaient de mort et tout. Mais c'était justement sa manière de supporter ça. Parce qu'elle retrouvait dans ses lectures quelque chose qui l'aidait à supporter ce qu'elle vivait, qui était difficile pour elle. Alors qu'on lui aurait fait lire que des trucs, tout mignon, tout fluffy. Après, le feel good, ça peut aussi aider le cosy à supporter des moments difficiles, mais c'est pas le seul moyen. Et elle, clairement, elle avait besoin de ça. Elle avait besoin de lire des livres un peu sombres, mais dans lesquels elle retrouvait des gens qui passaient un peu par les mêmes émotions qu'elle, et en même temps pas tout à fait. Et c'était l'idée de dire, là, il y a quelqu'un qui me comprend. Je suis pas tout seul face à... je suis pas tout seul face à mes soucis de famille, je suis pas toute seule à avoir un père problématique, ou je suis pas toute seule à quand même être super triste parce que ma grand-mère, elle est en train de mourir. Je retrouve ça dans des livres. Il y a une sorte de communauté, en fait. Et ça sert beaucoup à ça aussi, notamment, je pense, dans la littérature ado, la littérature jeunesse. C'est un retour que j'ai beaucoup quand, notamment, j'ai des personnages, que ce soit en horreur ou en feel-good d'ailleurs, qui sortent un peu des cases. Et voilà, je reçois des lettres de lecteurs, de lectrices qui disent « Ah bah là, j'ai trouvé un personnage qui me ressemble. » Ou « Là, j'ai trouvé quelqu'un qui passe par des trucs comme moi. » Et c'est vraiment important aussi à une période où c'est hyper facile de se sentir isolé quand on est un môme ou un ado qui traverse des trucs difficiles, quoi.
Lorsque tu as écrit « Ouijigo », qui est un roman d'horreur ou en tout cas de suspense historique, est-ce qu'il y avait ce côté de vouloir parler d'éléments de vie compliqués?
De toute manière, pour moi, un livre, ça résonne toujours avec le monde dans lequel il est écrit, d'une manière ou d'une autre, parce qu'on vit dans le monde dans lequel on écrit le livre. Et après, oui, ça résonne de manière différente pour les adultes, mais bien sûr, il y a ça aussi qui joue, quoi. Et j'ai vu un truc, parce que Ouijigo, je l'ai écrit pendant le premier confinement, donc c'était une période compliquée pour beaucoup de gens. Et ce que j'ai vu, c'est que des collègues qui écrivaient des choses paradoxalement plus joyeuses ou plus a priori, remonte morale, par exemple, du space opéra, de la SF d'aventure, tout ça. Ils sont retrouvés bloqués. Et moi, j'écrivais de l'horreur. J'ai pas fait exprès d'écrire de l'horreur à cette époque. Hein. C'est juste que c'était dans mon planning d'écriture. À ce moment-là, je devais écrire Wichigo. Et en fait, c'est vrai que de me plonger, j'écrivais encore plus la nuit que d'habitude. Donc, j'étais enfermée dans mon petit appartement lieu, j'écris la nuit. Et le monde était dystopique autour de moi. Mais de me plonger dans des gens qui souffraient autant et des histoires aussi sombres, mais qui n'était pas le sombre du monde autour de moi, ça me permettait quelque part de remettre un peu de distance, au moins dans ma tête, de pouvoir un petit peu plus appréhender, avec un peu de recul, la difficulté du monde dans lequel on vivait. Donc une sorte de... voilà. Et de me dire, je me plonge dans quelque chose de sombre aussi, mais je le mets en mots, donc déjà mettre en mots dans l'horreur, ça permet de donner un contour, de donner un cadre, de reprendre prise un peu sur le monde. Et l'horreur permet ça, l'horreur permet de reprendre prise sur la noirceur du monde. Donc c'est vrai que ça permet aussi, je vois, c'est quand même un genre qui est beaucoup écrit ou lu par des gens qui ont quelque chose à affronter ou qui ont dû affronter quelque chose ou qui ont dû réfléchir sur des choses un peu sombres. Voilà, des gens qui ont eu une rencontre en tout cas avec des choses sombres dans leur vie, qu'elles soient dramatiques ou moins. Ça veut pas dire que tous les auteurs d'horreur ont franchement souffert, c'est pas du tout ça que je veux dire. Mais juste à un moment quand même, la noirceur du monde, elle est là, elle fait partie de nos vies. Et pour les lecteurs aussi. Hein, et voilà, et l'horreur permet de, quelque part, la refaire un peu entrer dans un cadre mental qui permet... Enfin, là, ça fait qu'elle est moins envahissante, en fait. Ça fait qu'on est moins submergé, quelque part. Parce qu'on reprend... On reprend un petit peu de contrôle, même si c'est juste du contrôle psychologique sur les choses.
Dans l'anthologie, nous qui parlions depuis Les Ténèbres, est une anthologie qui a beaucoup fait parler d'elle. Une des principales raisons étant qu'elle était composée uniquement d'autrices. L'horreur est un genre qu'on assimile assez peu aux femmes. Alors que pourtant, paradoxalement, quand on voit l'état de notre monde, ce sont les femmes qui vivent le plus de dangers ou le plus de difficultés. Pourquoi est-ce qu'il y a cette désynchronisation entre, comme tu le dis, des lectorats qui cherchent à pouvoir reconquérir le monde qui les entoure, et pourtant cette absence de reconnaissance de la qualité stylistique ou écriturale de cette genre.
Prenez n'importe le roman gothique, n'importe quelle histoire du roman gothique, c'est très bête, mais c'est les premiers grands auteurs du roman gothique, ben c'est des autrices. Mmh. Et mine de rien, le premier roman de science-fiction qui est aussi l'un des premiers romans gothiques, c'est Frankenstein, c'est Mary Shelley. Donc déjà, là, on a un exemple qui est, qui est évident. Et puis, donc, le roman gothique se vend très bien, il est porté par des autrices, donc les hommes arrivent, ils s'aperçoivent que ça se vend, et donc ils décident d'en écrire. Et là, évidemment, les femmes sont reléguées au second plan. Mais c'est la même chose dans l'histoire de l'informatique. Il y a plein d'informaticiennes, tant que c'est considéré comme un travail un peu de seconde zone. Et puis, quand ça vient au premier plan, là, tout à coup, c'est les hommes qui arrivent. Et maintenant, beaucoup de gens considèrent que l'informatique, c'est un domaine masculin, alors qu'à la base, c'est un domaine qui a été beaucoup porté par des femmes. Mais c'était quand c'était pas considéré. Enfin, ça, c'est un mouvement qu'on trouve dans plein d'endroits de la société. Et comme aujourd'hui, à fortiori en France, l'horreur est très déconsidéré comme genre littéraire. Donc, il y a aussi beaucoup d'autrices qui y sont, et puis il y a aussi beaucoup de femmes qui sont pour plein de choses. Par exemple, comme tu disais, parce qu'effectivement, elles sont souvent en première ligne pour se confronter à la noirceur du monde, à beaucoup de choses aussi. Par exemple, pour tout ce qui est body horror, c'est très bête, mais le body horror, dans tout ce qui est l'horreur corporelle, c'est encore plus les femmes qui, de fait, dans la société, vont se retrouver à avoir des soucis avec, que ce soit leur corps, leur apparence, etc. Ne serait-ce que, par exemple, une incroyable majorité des procédures médicales, des médicaments, etc. sont testés que sur des hommes. Et après, peut-être un jour, on va s'apercevoir que les femmes, ça réagit pas pareil. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça. Je veux dire, bêtement, dans de plus en plus d'endroits du monde, la vie des femmes redevient un roman d'horreur. Enfin, on voit les restrictions sur l'avortement aux États-Unis, on voit ce qui se passe en Afghanistan, enfin voilà. Et par exemple, le body horror est une horreur qui permet de reprendre un peu du pouvoir sur les thématiques du corps, de la chair, etc. Donc forcément, c'est un genre qui historiquement aussi, et même maintenant, parle aux femmes pour ça, quoi. C'est voilà, parce que le corps des femmes, le contrôle du corps des femmes est un énorme enjeu politique à fortiori de nos jours, et le body horror permet de reprendre de la liberté là-dessus. Donc voilà. Et puis, quand un genre est très minorisé, les hommes en général s'en détachent et laissent aussi le champ libre un peu aux femmes pour jouer avec. Donc, c'est un double mouvement, quoi. Donc, en fait, au départ, c'était pas tant de mettre des autrices en avant, c'était vraiment de faire une anto d'horreur. Et puis en fait, mais sauf que les plumes d'horreur aujourd'hui en France, qu'on connaît dans une écrasante majorité, c'est des femmes. Et donc elles ont la double peine. À la fois, on parle peu d'elles parce que ce sont des femmes, on parle peu d'elles parce qu'elles font de l'horreur. Donc évidemment, ça nous semblait un peu évident, parce que déjà, on n'a pas pu mettre toutes les femmes qui écrivent de l'horreur en France, donc on ne peut pas mettre tous les gens, hommes et femmes mêlés, qui écrivent de l'horreur en France, quoi. Mmh. Donc voilà, donc c'est vrai que ça marche un peu main dans la main, en fait.
Cette interview arrive à sa fin. Il me reste deux parties. La première étant, quel est ton futur littéraire prochainement? Qu'est-ce que tu nous annonces?
Alors, déjà, dans les trucs qui sont très très calés, un gros young adulte chez Rajo. Qui cette fois c'est Angleterre victorienne, 19e siècle, avec du fantastique, avec du surnaturel. Mais justement, comment dire? Quand on pense Angleterre victorienne, on va penser très vite bal, beaux costumes et tout ça. Et il y a ça dedans. Mais aussi, mine de rien, avec en fond derrière, tout ce qui est les problèmes de, les problèmes d'inégalité et de misère crasse de cette époque, les problèmes de racisme, de sexisme de cette époque, qui sont pas niés pour autant. Avec des fantômes, avec du suspense, avec, donc, un bon côté angoisse. Avec vraiment, des personnages que j'ai la chance de vous présenter. Et un petit trio au centre, un héros et deux héroïnes. Et le héros, notamment, est un grand lecteur de romans gothiques, en fait. Et il a beaucoup trop tendance à se projeter dans les romans gothiques, ça l'aide aussi un peu à échapper aux problèmes de sa vie. Donc ça c'est janvier prochain chez Rajo, très hâte de vous le présenter. Après, dans mon futur littéraire, il y a quand même littérature adulte, à force d'en écrire, faut bien que ça se publie un jour. Donc là, j'ai pas encore tout calé, donc je peux pas vous donner de date exacte, mais quand même, j'avance bien vers la fin de mon grand roman maritime. Grande épopée sur quasiment un siècle, 3 océans, 5 mers, et une grande histoire d'horizon, de vengeance, et qui parle aussi des marginaux qui trouvent en mer malgré tout une place que la terre leur refuse. Donc ça vous fera voyager. Il y a des passages qui sont des gros passages sombres, borderline horreur, mais il y a aussi des vrais beaux passages d'horizon, de liberté, d'appel à la liberté. Et ça fait pas mal de temps que je bosse dessus, et là c'est on est un peu dans les derniers ajustements, donc j'espère que bientôt j'aurai des dates à vous donner.
Ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux en entendent parler régulièrement.
Ouais, parce que à la fois j'adore cette idée, je sais, ça me fait un peu bizarre quand je l'aurais quittée, mais j'ai tellement envie maintenant de le transmettre au monde. Et sinon, côté écriture, d'autres écritures en jeunesse et surtout en ado young adulte, qui est vraiment un domaine où je me sens très bien. Pour moi, c'est un peu l'héritier, le young adulte aujourd'hui, des romans d'aventure à l'Alexandre Dumas, à la Jules Verne, tout ça, quoi. Donc ça, j'aime bien. Et dans les projets d'écriture adulte aussi, parce que ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose, ça se voit pas, mais j'en écris. Je vous présente. Mais là, on commence à bien avancer sur mon prochain projet de space opéra adulte. Et j'espère pouvoir bien avancer bientôt sur un projet de folk horror, d'horreur, réécriture de mythes à l'époque actuelle. Très âpre, très hardcore. Donc ça, j'espère pareil pouvoir vous en parler plus bientôt.
On passe au portrait chinois. Tu commences à avoir l'habitude. Halloween est passé il y a quelques jours et tu es pas sans connaître tout ce qui se passe. Mais on te connaît la face cachée de l'autrice Estelle Fay et chasseuse de monstres. Tu es revenue avec un nouvel animal de compagnie. Quel est-il?
Une kelpie. J'adore les kelpies.
Qu'est-ce qu'une kelpie?
Un cheval de mer.
C'est pas un peu limité pour son utilisation? Il faut forcément que tu sois à côté de la mer, du coup.
Ouais, ça veut dire que je dois être à côté de la mer, c'est cool. C'est et bien. Puis, à Paris, je peux le mettre dans la Seine.
Ok. Bon, ça passe.
À Nantes, dans la Loire.
C'est vrai. J'avais pas pensé à ça. L'association Imaginaire te paye des vacances en Islande, parce qu'on est extrêmement riche comme toute association littéraire, tout le monde le sait. Dans tes bagages, tu as droit à 3 objets de la pop culture pour vivre en Islande.
Alors, je prends ma liseuse, parce que ça, quand on voyage à liseuse, c'est génial, parce qu'on peut amener une bonne partie de sa bibliothèque avec soi. J'adore les livres papier, j'ai toujours plein de livres papier, mais je dois reconnaître, Surtout que quand je voyage, en général, je voyage à pied, à vélo et en transport en commun, c'est-à-dire que je dois tout porter sur mon dos. Donc la liseuse, ça sauve. Donc ça, clairement. Je prends une liseuse. Après, je prends un de mes mugs favoris, probablement mon mug avec des citations du Rocky Horror Picture Show, parce qu'il faut.
Ok.
Voilà, parce que pareil, j'ai besoin d'un de mes mugs d'écriture. Donc si j'ai droit à un, c'est celui-là. Et je prends mon DVD du Rocky Horror Picture Show pour aller avec, parce que sinon, il va me manquer.
Très bien. Ça va, ça va. Tu voyages léger. Et d'ailleurs, quand tu voyages léger, tu me fais faire des économies. qu'on va t'en faire profiter. Tu peux partir avec 4 personnes, mortes ou vivantes.
Alors, je prends Fabien.
Pas d'animal de compagnie.
Oui, non mais je prends Fabien, mon co-auteur, pour une simple et bonne raison, c'est parce que lui a un permis de conduire, pas moi, et que l'Islande, il paraît qu'il faut mieux quand même pouvoir louer une voiture.
Ouais, quand même.
Voilà, donc je prends Fabien, parce qu'il peut louer une voiture. Alors, ensuite, donc morte ou vivante?
Ouais.
Ok, donc en morte, je prends Shakespeare et Marie Shelley pour pouvoir avoir des discussions littéraires, parce qu'il faut.
Très anglais tout ça.
Ouais, en fait, parce qu'en vivant, je prends des Français, donc comme ça, je peux parler les deux langues.
Bien.
Voilà. Et en fait, le problème pour prendre des Français, c'est que je sais qu'ils ont des vies en dehors de l'Islande, donc j'ose pas trop les mettre là-dedans. Mais faudrait que, disons, si je peux mettre en tournant des personnes de mon groupe d'écriture, parce que j'ai besoin d'eux pour écrire.
Ok.
Voilà.
Bah après, ça, c'est toi qui leur paieras les retours, mais je suis pas...
Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, de manière tournante, donc les membres de mon groupe d'écriture, ils feront des rotations.
Est-ce que t'as des noms à donner?
Ouais, alors évidemment, déjà, en premier, de toute manière, faudra qu'il y ait Jérôme qui vienne. Hein. Jérôme Accouche, super auteur, c'est mon bêta lecteur. Voilà, sans lui, je peux pas. Hein. Voilà. Et après, évidemment, à un moment, dans l'idéal, il faudrait que les Florian qui passent, Florian Soulas, parce que bon, voilà, il faut qu'à un moment, on parle d'horreur toutes les deux et de body horror. Et je pense que ça serait très bien de parler de body horror en Islande. Après aussi, dans mon groupe d'écriture, alors il y a une jeune autrice qui va sortir son premier roman l'année prochaine.
D'accord.
Et c'est très cool, je vous encourage beaucoup.
Quelle maison d'édition ?
Et qui la sort chez Plus Blanche, Les dragons marchent sur les nuages de Marielle Carogio.
Okay.
Et c'est super bien. Voilà. Et c'est aussi mon éditrice pour un petit projet dont j'ai pas encore parlé, je sais pas si j'ai le droit, mais tant pis, je le fais quand même. C'est elle qui va faire une réédition de mon premier roman Porcelaine, okay, avec quelques petits ajouts très sympas.
Ok.
Elle bosse super bien, donc Marielle. Et puis, parce que je veux parler Young Adult quand même, donc par moment, il faudra qu'il y ait Mip qui passe, Mip Ruperto Sanker, chez Scrineo. Elle est très cool, et Mip, elle est super solaire, donc s'il fait gris en Islande, elle me remontera le moral.
Pour finir cette interview, tu as, comme d'habitude, le choix de la musique.
Comme en ce moment, je suis justement en train de réfléchir à tout ce qui est folk horror et tout ça, si c'est possible, un morceau d'Ailung.
Ok, ça sera fait. Merci beaucoup Estelle, et un vrai plaisir de te lire. On espère te retrouver très bientôt.
Et en tout cas, c'est toujours très très cool de faire une interview avec vous.
Allez, rentre bien et à très bientôt.
Merci.
Ça te fait chanter Sébastien Heilung Nesso. On n'aura pas du tout le temps de l'écouter, dure 8 minutes, et puis il va falloir qu'on rende l'antenne dans quelques secondes. Désolé Estelle pour ton choix musical. L'agenda, il vous reste quelques jours pour aller voir l'expo des 50 ans du jeu de rôle à la bibliothèque de Belbey, à laquelle on a participé. Donc dépêchez-vous. Et puis tu voulais nous parler de rencontre avec Patrice.
Ouais, donc j'espère pouvoir interviewer Patrice, mais pas au studio, mais en délocalisé à la Cohue. Le bar littéraire qui est place de la gare, qui permet de partager donc autour de bouquins, un verre et tout. Et je trouve que le cadre est plutôt sympathique. Donc on verra avec Patrice comment on ressent l'atmosphère des lieux pour vous en parler davantage la prochaine fois.
Ok, ce sera dans un mois, parce que pas d'émission le 24, ce sera l'émission de Noël de Radio G. Bisous, bisous.
Salut.
Radio G 101.5 FM.